Bonsoir à tous. Le bras de fer entre AstraZeneca et l'Europe, le laboratoire annonce une nouvelle baisse des livraisons de son vaccin. L'Europe reproche au laboratoire de ne pas faire les efforts suffisants pour honorer ses engagements. Christian Chéneau, dans un instant. L'urgence pour soulager les hôpitaux d'Île-de-France. Les premiers patients Covid ont été transférés aujourd'hui vers des hôpitaux de l'Ouest. Les évacuations de malades se poursuivront demain. Dans les EHPAD, la vaccination permet aux résidents de retrouver une vie normale. Les personnes âgées vaccinées vont pouvoir profiter de leur famille. Dans ce journal également, une journée de lutte contre la précarité menstruelle à l'appel du collectif Réglez-moi ça. Du football avec la réélection de Noël Le Graët à la présidence de la Fédération. Et puis du rugby Angleterre-France dans le tournoi des Six Nations. Nous rejoindrons notre correspondant à Londres, Richard Place. La France mène actuellement 20-16. Le temps pour demain, un court répit à l'ouest, des giboulées à l'est. Température fraîche sur la moitié nord. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Les premiers transferts de patients Covid d'Île-de-France vers des hôpitaux de l'Ouest ont donc débuté aujourd'hui. 3 malades en réanimation ont été transférés en hélicoptère vers les hôpitaux de Nantes, d'Angers et du Mans. Pour les médecins, il y a urgence à agir pour soulager les hôpitaux d'Île-de-France qui reçoivent un nouveau malade du coronavirus toutes les 12 minutes. Les services de réanimation sont en très grande tension. Patrick Peloux, médecin urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes de France.
J'ai envie de vous dire, le chef a décidé, donc on le fait, parce qu'il faut être uni et il faut faire nation, parce qu'on est vraiment dans une lutte de chaque instant. Donc, on n'a pas moyen de faire autrement à l'heure actuelle. L'année dernière, nous avions une mobilisation générale qui a diminué, hein, ça c'est très net. Donc du coup, si on veut rouvrir des lits de réanimation, c'est très difficile. Et d'autre part, par rapport à l'année dernière, on veut se consacrer aux autres malades, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus, il y a les autres malades. Donc, tout ça, ça fait que c'est une vraie crise. Et notre seul moyen, comme vous venez de le dire, c'est de mobiliser les secouristes, les médecins des SAMU, les médecins urgentistes de toutes les régions et de transférer des malades. L'objectif étant d'atteindre peut-être 100 à 150 malades de réanimation qui partiront dans d'autres régions qui sont moins touchées et moins sous pression que ce qu'est l'Île-de-France actuellement.
Patrick Peloux avec Bernard Thomasson. Et selon les chiffres publiés ce soir par Santé publique France, 29 759 nouveaux cas de contamination ont été détectés ces dernières 24 heures contre 25 229 la veille. On dénombre également 4 070 personnes en réanimation. Concernant la livraison des vaccins, encore une mauvaise nouvelle. Les laboratoires AstraZeneca annoncent des réductions de ces livraisons à l'Europe. Un tiers seulement des vaccins promis, seront livrés au premier trimestre. Il y aura également des retards au deuxième trimestre. Malgré ces contretemps inquiétants pour la campagne de vaccination en France, le gouvernement maintient malgré tout son objectif de 10 millions de personnes vaccinées mi-avril. Pour l'Union européenne, le laboratoire AstraZeneca ne fait pas les efforts suffisants pour respecter ces délais de livraison, Christian Chéneau.
Entre AstraZeneca et l'Union européenne, les contentieux s'accumulent. Déjà en retard dans ses livraisons de vaccins, le géant pharmaceutique devait augmenter la cadence pour arriver à livrer fin mars 30 millions de doses et 70 millions au deuxième trimestre dans toute l'Europe. L'objectif ne sera pas atteint, reconnaît AstraZeneca qui pointe du doigt les lenteurs de Bruxelles pour homologuer son usine de Leiden aux Pays-Bas, ce qui entraîne des restrictions d'exportation. Des nouvelles complications qui s'ajoutent à celles déjà rencontrées sur son site de production en Belgique. AstraZeneca indique travailler avec les responsables européens pour résoudre les difficultés d'approvisionnement. Le commissaire Thierry Breton, qui dirige la task force vaccins de l'Union, estime, lui, que les efforts du géant pharmaceutique sont insuffisants. La grogne monte, notamment en Allemagne, où le Land de Thuringe a dû interrompre sa campagne de vaccination, d'où la colère du ministre de la Santé de cette région du centre du pays, qui juge inacceptable les retards de livraison des vaccins.
Christian Chéneau, et ce soir, les autorités sanitaires norvégiennes s'inquiètent de cas d'hémorragie cutanée chez des personnes relativement jeunes ayant reçu une dose du vaccin AstraZeneca, même si aucun lien n'est encore établi avec le vaccin. La Norvège, l'Islande et le Danemark notamment ont annoncé jeudi la suspension des injections du vaccin d'AstraZeneca en invoquant le principe de précaution. Dans les EHPAD, la vaccination permet aujourd'hui aux résidents de retrouver une vie normale. Un nouveau protocole sanitaire sanitaire a été mise en place. Les personnes âgées, protégées par le vaccin, vont pouvoir reprendre leurs enfants dans les bras, leur parler sans barrière et sans plexiglas. Les visites en chambre sont également autorisées. En Mayenne, par exemple, tous les EHPAD ne sont pas encore prêts, comme à Cossé-le-Vivien, où beaucoup de cas de contamination ont été détectés en décembre dernier. Aude Bouvier, directrice de l'EHPAD, au micro d'Adrien Bossard de France Bleu Mayenne.
On voit qu'il y a effectivement un décalage entre le protocole qui annonce clairement une reprise, par exemple des sorties possibles des résidents en famille, mais derrière, on met un petit peu la condition qu'il y ait bien eu deux injections et un délai à suivre, alors que l'on indique de l'ordre de 10 à 14 jours. Donc vous voyez, nous à Cossé, on vient de finir cette étape des deux injections, donc on se laisse encore une dizaine de jours. Et puis on a aussi une phase de questionnement et de travail avec les familles à mettre en place, parce qu'il y a aussi plus globalement la question des visites dans l'établissement, qui pour nous se fait encore sur des espaces dédiés et qui pourrait prochainement évoluer vers une reprise des visites en chambre. On voit bien que ce sont des choses qu'il faut travailler à la fois avec les familles, avec les résidents aussi. On sait bien que ce sont des demandes très fortes, et aussi avec les équipes, pour ne pas susciter à nouveau des inquiétudes d'une nouvelle irruption, j'ai envie de dire, du virus dans les établissements.
Aude Bouvier, directrice d'EHPAD en Mayenne. Deux jeunes hommes radicalisés et soupçonnés de deux projets d'action violentes, notamment contre des militaires, ont été interpellés. L'un à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, l'autre à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit de deux enquêtes distinctes. À Mantes-la-Jolie, le mineur âgé de 17 ans a été placé en garde à vue. À Marseille, l'individu de 18 ans a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Ni salle, ni secret, c'est un enjeu de santé publique. Le collectif Réglez-moi ça a organisé aujourd'hui une journée de lutte contre la précarité menstruelle avec des collectes de protection hygiénique dans les centres commerciaux de plusieurs villes. Selon ce collectif, ce phénomène de précarité menstruelle concerne près d'1 700 000 femmes en France. Reportage au centre commercial de Montreuil en Seine-Saint-Denis, Yann Gallic.
À l'entrée du supermarché, les bénévoles de l'association Réglez-moi ça interpellent les passants venus faire leurs courses.
Bonjour madame. On organise une collecte de protection hygiénique pour lutter contre la précarité menstruelle.
Ça, je trouve ça très bien. Ça, pour moi, c'est la vraie solidarité.
Émilie Mostefaï est étudiante et cofondatrice de l'association qui organise cette collecte. L'objectif, dit-elle, c'est de récupérer un maximum de tampons ou de serviettes hygiéniques pour les femmes précaires, mais aussi de sensibiliser le public sur un sujet encore tabou.
Il y a des étudiantes dans le besoin, par exemple, qui n'allaient pas pouvoir s'acheter ou prendre en compte dans leur budget des serviettes hygiéniques parce que souvent, ça coûte trop cher pour elles dans un budget étudiant. Vous savez, actuellement, la précarité dans laquelle se trouve la jeunesse, enfin une partie de la jeunesse, il n'y a pas que manger, avoir ses règles, c'est naturel. Donc voilà, on fait tout pour aider.
Selon Émilie Mostefaï, il faudrait aussi une véritable prise de conscience politique.
On demande depuis un an et demi à ce qu'il y ait des distributeurs de protection hygiénique dans tous les lieux publics, et aussi donc collèges, lycées et autres. Pas seulement certaines universités, comme ça vient d'être annoncé. On est content que les pouvoirs publics se saisissent enfin de cette question-là, mais on estime que c'est pas assez. On demande d'aller plus loin.
Grâce à cette collecte, l'association Réglez-moi ça a pu récupérer près de 4000 paquets de protection hygiénique pour les femmes précaires.
Yann Gallic à Montreuil.
France Inter. Frédéric Barrère.
Noël Le Graët reste le patron du football français. Le Breton, âgé de 79 ans, a été réélu largement aujourd'hui, dès le premier tour, face à Frédéric Thirier et Michel Moulin. Noël Le Graët, à la tête de la Fédération française de football depuis 10 ans, est donc reconduit pour 4 ans, Cédric Guillou.
73% des voix de l'Assemblée fédérale, c'est au-delà des espérances de Noël Le Graët.
Je suis évidemment content du score, content d'être réélu. Je crois que la marge est nette.
C'est la troisième fois après 2012 et 2017 que le Breton est élu dès le premier tour, après une campagne axée sur la continuité, sur ses bons rapports avec les pouvoirs publics. Le Breton a également séduit le football amateur qui représentait 63% des votants.
Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai vu tout le monde. Et les débats, je les ai eus avec les amateurs. Dans toutes les ligues, je les ai fait toutes à titre personnel. Je n'ai pas constaté qu'ils étaient défaitistes à ce point-là. Au contraire, j'ai trouvé qu'ils avaient envie de reprendre, qu'ils étaient prêts à partager encore un peu de douleur, entre guillemets, et qu'ils avaient très envie de reprendre. J'ai constaté une grande union.
Remis d'une leucémie lymphoïde annoncée avant le Mondial 2018, Noël Le Graët se dit en pleine forme pour poursuivre l'aventure. Préférant toujours parler d'expérience plutôt que d'âge, il entame ce quatrième mandat à 79 ans.
Cédric Guillou, l'événement sportif du jour, c'est le match Angleterre-France en rugby lors de la quatrième journée du tournoi des Six Nations. On retrouve en direct de Twickenham notre correspondant à Londres, Richard Place. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
Un match très engagé et la France mène.
Oui, la France mène à moins d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre, 20 à 16 en faveur de cette belle équipe de France. La deuxième mi-temps est beaucoup plus stratégique, tactique que ne l'a été la première. La première était beaucoup plus enlevée avec par moments des phases de très haut niveau de la part de l'équipe de France, notamment le deuxième essai inscrit à la 33e minute par Damien Penaud après un mouvement d'une ampleur magnifique. Vraiment un jeu de très haut niveau développé par cette équipe de France. En face d'elle, une équipe anglaise qui se cherche, qui a raté son tournoi de destination, c'est certain, puisqu'en trois matchs, elle a déjà perdu deux fois, dont une fois à domicile contre l'Écosse. Mais cette équipe anglaise pose des difficultés parce que elle est revenue un peu à ce qu'on peut appeler en rugby des fondamentaux. Elle joue simple, elle essaye de jouer efficace, mais elle a bien du mal face à la furia française, face à Antoine Dupont, encore une fois excellent, et face à cette équipe de France qui joue juste et qui, pour l'instant, se dirige peut-être vers une victoire ici qui lui échappe depuis 15 ans.
On le souhaite. En tout cas, l'équipe de France mène toujours 20 à 16. Richard Place, merci, en direct de Twickenham. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Simeone et Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir Frédéric.
Et ce soir, on va s'intéresser au moteur de recherche français Lilo. Et lorsqu'on fait une recherche internet avec Lilo, on génère une aide financière à des associations. Et cette semaine, l'équipe de Lilo dévoile un sondage IFOP. Les Français sont-ils prêts à s'engager pour un monde meilleur, plus solidaire, plus écologique? Et la réponse, Christine, oui, mais.
D'après ce sondage IFOP, un Français sur deux a vraiment agi pendant l'année écoulée, depuis le premier confinement. Mais les Français estiment aussi en majorité que c'est aux associations d'agir. Et ils ne sont que 24% à pouvoir vraiment les soutenir, que ce soit en temps ou en argent.
Et quel est le rapport, Christine, avec un moteur de recherche?
Et prenons l'exemple de Sea Shepherd, de l'ONG qui agit pour la protection des océans. Et écoutons ce que dit l'une de ses responsables, Lamia Mlali, au sujet de son expérience avec ce tout petit moteur de recherche qu'est Lilo.
Bon, c'est vrai que c'est très peu connu, hein, comparé à Google par exemple. Enfin, ça reste une niche. Nous, de façon très concrète, en termes de chiffres, je crois qu'on en est à 160 000 euros collectés grâce aux gouttes de Lilo, 160 000 euros sur 3 ans. Ça permet quand même de financer une bonne partie des campagnes, par exemple, qu'on fait à Mayotte pour la protection des tortues. C'est pas négligeable. Ça a l'intérêt de permettre aux gens qui ont vraiment pas les moyens de soutenir financièrement les associations, de pouvoir contribuer.
Pour l'ONG Sea Shepherd, l'année 2020, si difficile pour tous, n'a pas occasionné de diminution de dons. À ce jour, et depuis son lancement, Lilo a redistribué 3,5 millions d'euros à diverses associations. Le sondage IFOP sur l'engagement des Français lui permet de se positionner et de se faire connaître, comme le dit Sophie Baudin, la présidente de Lilo.
Cette étude, d'un côté, elle est incroyable parce qu'on voit que quand on expose le concept de Lilo, quand on expose cette possibilité de soutenir gratuitement des associations grâce à ces recherches Internet, il y a 8 Français sur 10 qui disent « Ah ben moi, j'aimerais bien l'essayer ». Pourtant, aujourd'hui, il y a 9 Français sur 10 qui utilisent Google et beaucoup, nombre d'entre eux ne savent même pas qu'ils peuvent utiliser ou essayer d'avoir recours à un moteur de recherche alternatif.
Voilà, il s'agit désormais de franchir le mur du son, se faire connaître, permettre aux gens de se sentir utiles, utiles au changement, et ce, facilement. Je rappelle que l'ensemble des moteurs de recherche génère 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en publicité chaque année en France. Bien sûr, l'essentiel va chez Google, ça laisse des marges de progression importantes pour tous les petits poussés de la toile.
Christine Simeone, Ma Vie Connectée, le moteur de recherche Lilo, à retrouver sur notre site franceinter.fr. Le temps pour demain.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
Demain après-midi, les températures vont stationner à peu près au même niveau qu'aujourd'hui. Par contre, dans la moitié nord du pays, la matinée sera quand même plus fraîche, vers 3 degrés de moyenne. Demain, le ciel giboulé va surtout intéresser les régions allant du quart nord-est à Rhône-Alpes, avec parfois du grésil et des flocons jusqu'en plaine, et vraisemblablement une bonne vingtaine de centimètres de neige fraîche à partir de 800 mètres d'altitude sur les Vosges et le Jura, souvent beaucoup plus sur les Alpes, venant ainsi amplifier le risque de départ d'avalanche. Du Massif central au nord de la Seine et au sud de la Garonne, nuages éclaircis et averses vont se succéder avec des flocons vers 600 mètres sur le Massif central, 1000 mètres sur les Pyrénées. Enfin, les éclaircies seront assez larges sur le quart nord-ouest et surtout sur le bassin méditerranéen. Mais là, ce sera au prix d'un vent fort jusqu'à 120 km à l'heure sur la Corse, 80 pour le Mistral et la Tramontane.
Jean-Michel Golinski de Météo France.